Radio Kapi. Oh, Kapi.
Le journal Jocelyne Moussaou Ponde.
Procès Tchebeya, les partis civils demandent au président de la République de révoquer urgemment le général John Numbi des FARDC et le colonel Daniel Mukalai de la police. Les défenseurs des droits de l'homme disent craindre pour leur sécurité avec la présence de ces deux personnalités au sein des services de sécurité. Plus de 70 otages libérés des mains de rebelles des ADF depuis le début de l'année en cours dans les territoires de Béni. Et c'est au cours des différentes opérations militaires en cours, dit le porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord. Docteur Stéphane Hans Batei, médecin coordonnateur du programme élargi de vaccination au Nord Kivu, est notre invité. Il évalue les activités de vaccination contre le Covid-19 dans cette province en ces débuts du mois de mars. Bonjour à tous. Justice pour ouvrir ce journal. Au procès du double assassinat de Floribert Tchebeya et Fidel Bazana, les partis civils demandent au président de la République de révoquer urgemment le général John Numbi des FARDC et le colonel Daniel Mukalai de la police. Au cours d'une conférence de presse animée hier samedi au siège de la VSV, les défenseurs de droits de l'homme ont dit craindre pour leur sécurité avec la présence de ces deux personnalités au sein des services de sécurité. Selon Maître Peter Ngomo, leur révocation permettrait également à la haute cour militaire de juger John Numbi à la prochaine instance du procès sans tergiversation. On l'écoute au micro de Jeff Ngoy.
Donc, même si sur le plan pénal, partant du principe non bis in idem, c'est-à-dire qu'on ne pouvait plus juger le colonel Mukalai pour deux fois pour les mêmes faits, nous sollicitons cette fois-ci quand même au chef de l'État sur le plan administratif parce qu'il ne demeure pas pour autant qu'il est toujours policier. Vous le voyez que chaque fois qu'il comparé aux audiences, il est toujours porteur de ses galons et de sa tenue de police. Alors nous demandons au chef de l'État de carrément les révoquer, parce que son maintien à la police constituerait une source d'insécurité, même pour nous autres, qui depuis plus de 12 ans continuent à martyrer sur lui. Hein? Nous demandons au chef de l'État de les révoquer, mais également au-delà de lui, le général John Numbi, qui a été reconnu par le ministère public comme responsable de ces assassinats également, que lui également soit révoqué des forces armées.
Omaï Ndombe, les magistrats et autres auxiliaires du parquet général près la cour d'appel se disent découragés et menacent de quitter la ville d'Inongo pour ne plus y travailler. Au motif, la libération jeudi dernier des inciviques en détention par la police nationale congolaise sans ordre du parquet général. Parmi ces gens libérés, trois étaient déjà déférés devant les tribunaux de grande instance, a dit le procureur général Willy Njoko. Selon lui, c'est le commissaire provincial de la police qui est à la base de cette libération illégale qui n'est pas la première. En réaction, le commissaire général de la police, Maï Ndombe, Christian Paipai, s'est dit concerné ni de près ni de loin dans ce dossier. Il évoque plutôt le conseil provincial de sécurité. Des explications avec Irène Boma.
Le procureur général du parquet près la cour d'appel du Maï Ndombe trouve que le principe de l'indépendance du pouvoir judiciaire n'est pas respecté par le commissaire provincial de la police qui a libéré sans son avis des inciviques qui étaient détenus à la cellule de Camp Léopold D à Inongo. Pour Willy Njoko, ceci décourage les magistrats qui menacent même de ne plus travailler dans cette ville.
Les gens sont découragés, les magistrats aussi en premier lieu, et ils les ont libérés sans se référer à ma personne, au procureur général. Déjà avec ça, à ce niveau-là, il n'y a pas lieu qu'on continue à rester ici. Le commissaire provincial devait appuyer la justice, mais il s'était vécu à libérer les gens chaque fois qu'on les a arrêtés.
Réagissant à ces allégations portées contre lui, le commissaire provincial de la police du Maï Ndombe, le général Christian Paipai, précise ce qui suit.
On avait une réunion du comité provincial de sécurité. Il se fait qu'il y a des détenus qui ont passé plus de 2-3 mois dans un cachot qui ne répond pas aux normes. Comme on n'avait pas d'explication, à l'unanimité, tous les membres du comité provincial de sécurité sécurité avait décidé qu'ils aillent chez eux.
Nos efforts pour avoir la réaction du gouverneur Haïdji Maïndombe, qui avait présidé cette réunion du Conseil provincial de sécurité, n'ont pas abouti. Irène Mboma, Bande Nouvelle, Radio Okapi.
De leur côté, les avocats et défenseurs judiciaires ont dénoncé hier samedi ce qu'ils qualifient des violations flagrantes par le commissaire provincial de la police du Maïndombe de l'article 149 de la Constitution qui énonce le principe de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Dans une déclaration faite à la presse, ces avocats accusent ces derniers d'avoir libéré de manière illégale, sur ordre illégal du gouverneur de province, les prévenus mis en détention par le procureur général du parquet général du Maïndombe. Ils sollicitent l'implication du chef de l'État pour restaurer l'ordre dans l'administration de cette partie du pays où règne l'anarchie.
Nous, avocats et défenseurs judiciaires du Maïndombe, réunis en date du 5 mars 2022, en rapport avec la crise qu'il y a entre les pouvoirs exécutifs et judiciaires, dénonçons avec la plus grande énergie la violation flagrante de l'article 149 de la Constitution du 18 février 2006, lequel énonce les principes de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Le commissaire provincial de la PNC du Maïndombe, sur ordre illégal de l'exécutif provincial, s'est permis de libérer les prévenus mis en détention par le procureur général, dont certains dossiers sont en fixation devant le tribunal de grande instance d'Inongo pour infraction d'association de malfaiteurs Circe. Nous recommandons à son excellence monsieur le président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, de s'impliquer personnellement pour restaurer la paix, la justice et la bonne administration publique dans le Maïndombe, afin d'épargner les habitants de notre province et l'anarchie qui risque de devenir légale.
Direction le Nord Kivu, où l'armée annonce ces derniers jours la libération de plusieurs otages civils de mains des ADF au cours des différentes opérations militaires en cours. Les derniers en date sont les 4 filles libérées vendredi, dont 3 au nord-est de Oicha et 1 dans le secteur de Rouenzori, dans le territoire de Beni. Nous avons demandé au porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord ce qu'il en est exactement. D'après lui, au moins 70 otages ont été libérés depuis les débuts de cette année, parmi lesquels une vingtaine de femmes. Voici ce qu'en dit le capitaine Anthony Mwalushai. Il est joint au téléphone par Guylaine Kassassia.
Il y a eu 3 otages libérés au nord-ouest de Ouicha et une autre fille dans le Rouenzori. Ce qui fait 4.
Exactement, depuis le début de l'année, nous avons aujourd'hui sauvé les compatriotes qui étaient dans le main des terroristes, qui sont aujourd'hui en 72. Voilà un peu les bilans chiffrés. Parmi les otages libérés, il y a 26 femmes, et la majorité sont des mineurs. Au moment où une personne de plus est en train d'être tué, on ne s'est dit pas arrivé, mais on s'est dit on a déjà fait quelque chose et on est obligé de continuer. Ce n'est pas une compétition pour dire qu'on est arrivé, on va croiser les bras. Donc, le travail continue. Parmi les nombres que j'ai cités, il y a au moins 7 qui ont eu l'occasion pendant nos opérations de bombardement, qui ont eu l'occasion de fuir. Mais la majorité, ce sont pendant les affrontements ou soit les patrouilles de combat que nous avons libéré la majorité d'entre eux.
Crise ukrainienne, 533 Congolais ont réussi à atteindre la Pologne qui, conformément aux recommandations de l'Union européenne, accorde un séjour temporaire de 30 jours en attendant leur retour en RDC. C'est ce qu'a annoncé le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, lors du Conseil des ministres de vendredi 4 mars, au sujet de 12 de nos compatriotes étudiants répertoriés à l'université de Sami State, située à 800 km de la frontière polonaise. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a informé le Conseil qu'il maintient des contacts étroits avec les autorités académiques en vue d'être informés des possibilités d'évacuation en toute sécurité et pour leur éviter d'être pris entre deux feux, rapporte le compte-rendu du Conseil des ministres publié hier samedi 5 mars. Nous ne ferons jamais un Congo fort sans une cohésion, s'il n'y a pas une cohésion nationale forte. Déclaration du député national Iyanainyo Molisso au Simon Jean-Pierre, président de la commission permanente de droits de l'homme à l'Assemblée nationale, à l'issue d'un atelier de rélecture de la proposition de loi contre le tribalisme, le racisme et la xénophobie. Atelier organisé à Kinshasa par le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, le député Iyanainyo Molisso a promis que sa commission apportera un appui nécessaire à cette proposition de loi jusqu'à son adoption par la Chambre basse et sa promulgation par le président de la République. Un extrait du président de la commission permanente des droits de l'homme au micro d'Honoré Missenga Kalala.
La proposition de loi contre le tribalisme, j'en suis convaincu, constitue une opportunité de remettre sur la table les valeurs ancestrales qui sont les nôtres, l'accueil, la solidarité, le vivre ensemble, le souci de régler pacifiquement les conflits entre nos communautés ou entre individus sous l'arbre à palabre et surtout la tolérance. Dans la recherche d'une solution à ce problème, la Commission permanente des droits de l'homme de l'Assemblée nationale s'engage à faire sa part. Les différents instruments juridiques internationaux des droits de l'homme nous donnent le canevas pour faire le processus législatif sur la question des discours de haine et d'incitation à la haine.
La proposition de loi contre le tribalisme, le racisme et la xénophobie est une initiative du député Gary Sakata Moke. Le BCNDH a organisé un atelier de sa relecture pour permettre aux organisations de la société civile congolaise, à certains services étatiques, aux chercheurs ainsi qu'aux agences de l'ONU à s'imprégner du contenu de cette proposition et de proposer au besoin des amendements. Au Nord Kivu, reprise du trafic sur le pont Mambenga situé sur le tronçon Kiwanja-Kanyabayonga dans les territoires de Rutshuru. L'annonce a été faite vendredi par le porte-parole du gouverneur militaire, le général Sylvain Ekenge. Les usagers ainsi que les propriétaires des véhicules sont appelés au respect strict du tonnage maximal exigé pour la traversée de ce pont d'une importance capitale sur la route nationale numéro 2, reliant la ville de Goma à la partie nord de la province. Bernardine Diambou.
Le pont Mambenga jeté sur la rivière Rutshuru, reliant la jonction entre Goma et la partie nord de la province Nord Kivu, qui était en état de délabrement très avancé, vient d'être réhabilité. Dans un communiqué de presse rendu public hier vendredi, le porte-parole militaire a annoncé la reprise imminente du trafic sur la route nationale numéro 2 après la réhabilitation de cet ouvrage. Pour le général Sylvain Ekenge, la réhabilitation de deux bandes de roulement et de la rampe d'axe sur le pont Mambenga exige pour l'instant que seuls les véhicules légers, dont minibus, voitures, sont autorisés à traverser sur ce pont. C'est une mesure de prévention sur les dangers qui peuvent surgir. Les passages de gros véhicules interviendra en début de la semaine prochaine. En conséquence, les usagers et propriétaires des véhicules sont appelés au respect strict du tonnage maximal exigé pour la traversée du pont. Signalons que le trafic avait été interrompu momentanément depuis quelques jours, au motif, selon notre source de son délabrement. Les travaux de réhabilitation ont été effectués par l'Office des routes. Goma, Bernardine Diambou, Radio Okapi.
Encourager les jeunes Congolais à l'entrepreneuriat et au leadership, c'est l'objectif principal de l'atelier qui a eu lieu hier samedi ici à Kinshasa. Cette rencontre organisée par African Leadership Academy a réuni une cinquantaine de jeunes venus des écoles secondaires de la ville de Kinshasa. Evasiaka Wakam, représentante de cette structure en Afrique subsaharienne, précise que cet atelier vise également à apprendre aux jeunes à savoir utiliser leurs potentialités. Evasia Kawakam est au micro de Paul Matendo.
On s'est rendu compte que les jeunes Africains sont très théoriques, mais beaucoup moins pratiques. Donc, il est venu le moment d'être pratique, de comprendre c'est quoi le leadership. Pour être un leader, il faut se connaître. Pour être un leader, il faut savoir quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses. Et l'entrepreneuriat, ça veut dire l'utilisation et la gestion de nos propres ressources, que ce soit nos forces personnelles comme nos ressources locales ou naturelles. Il faut les utiliser, les développer pour nous développer l'Afrique en effet. On a des zones ou des régions en Afrique où les jeunes étudient l'informatique, mais ils ne peuvent pas reconnaître un ordinateur. C'est important que le jeune commence à utiliser, à être plus pratique que théorique, à donner autant d'importance à la pratique, sinon plus d'importance à la pratique qu'à la théorie. Quand on se pose la question, qu'est-ce qu'on sait faire et non qu'est-ce qu'on connaît.
Actualité internationale.
Au 10e jour de l'invasion de l'Ukraine hier samedi, les troupes russes continuent leur progression et des bombardements ont lieu dans plusieurs villes du pays. Une évacuation de civils de Mariupol devait avoir lieu, mais elle a été reportée, selon le maire de la ville, à cause du non-respect du cessez-le-feu annoncé quelques heures plus tôt.
L'invité.
Nous recevons ce matin le docteur Stéphane Hans-Batteï, médecin coordonnateur du programme élargi de vaccination au Nord Kivu. Dans cet entretien avec Rosalie Zawadi, il évalue les activités de vaccination contre le Covid-19 dans cette province en ces débuts du mois de mars. Suivez.
Docteur Hans-Batteï, bonjour.
Bonjour, madame.
Quelle est la situation de la vaccination au Nord Kivu?
Nous sommes en train de poursuivre la vaccination en mode routine, puisque nous avons deux modes. Il y a mode campagne et mode routine. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes déjà à plus de 72 000 vaccinés dans l'ensemble de la province, si nous prenons la première dose et la deuxième dose, contre Covid-19, et avec les quatre vaccins disponibles, donc le Moderna, le Pfizer, le GNG et le vaccin chinois. Jusque là, nous avons plus de 600 000 doses en stock. Donc, il y a des vaccins qui vont jusqu'en 2023. Il y a d'autres vaccins qui vont aller jusqu'en juin. Mais nous avons, au niveau national, de l'eau qui arrive de plus en plus. Et nous pensons qu'on n'a pas un problème de stock. On a suffisamment de vaccins pour répondre à la réponse dans la province.
La vaccination des routines, est-ce que la population comprend ou elle était là quand c'était mode campagne, mais aujourd'hui, comme c'est la routine, les gens ne viennent plus comme il faut?
La différence entre les deux modes, c'est que pendant le mode campagne, on essaie d'intensifier la communication, on essaie d'augmenter davantage les sites. Mais on a maintenu les 170 sites pour les 34 zones de santé, donc dans toutes les zones, puisque la vaccination prône l'équité, donc on doit vacciner même le plus démuni partout où il se trouve, ce qui fait que même dans le Walikale, dans le Pinga, dans le Mangurugi, Pakamango, nous avons positionné des sites de vaccination. Donc on est là, mode routine, c'est plutôt la sensibilisation qu'on doit encore intensifier, comme on est en train de le faire avec Internews, les autres partenaires, Radio Okapi et tout le monde, pour que la communauté, la société comprennent les bénéfices de la vaccination que de mourir de Covid ou que de faire Covid. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui fait Covid, il va dans les hôpitaux VIP de la ville, c'est pas moins de 5 à 8 000 $ qu'il faut débourser, ce qui n'est pas à la portée de tout le monde.
Aujourd'hui, qui sont concernés par cette vaccination qui est devenue des routines?
Avec nos données de la surveillance épidémiologique, tout le monde est concerné par la vaccination, même les enfants. Parce que nous vaccinons de 18 ans jusqu'au-delà. Donc, et nous vaccinons les enfants sous consentement. Donc, un parent qui doit consentir qu'on vaccine son enfant à partir de 12 ans jusqu'à 18 ans, on les vaccine aussi. Et les autres également volontaires qui passent au niveau des sites, on les vaccine également. Ce qui est important, c'est que les gens doivent savoir, quand j'ai reçu le vaccin en une dose, c'est bon. Mais si je reçois le vaccin en deux doses, je dois retourner pour la deuxième dose, afin d'avoir une immunité complète, mais aussi savoir l'importance de la vaccination. L'importance, c'est qu'une fois on est vacciné, on a des anticorps qui vont vous protéger, qui vont vous permettre, une fois en contact avec le virus, votre corps va bien se défendre. En plus, la vaccination permet de limiter la propagation de la maladie. Et enfin, quand quelqu'un est vacciné, il peut être en contact avec le virus, mais il aura la chance de faire une forme moins grave. Ça, c'est déjà important. Mais aussi les personnes âgées, les personnes ayant la comorbidité, hypertension, diabète, insuffisance rénale, obésité, toutes ces maladies, et les travailleurs de première ligne, ils doivent se faire vacciner aussi, puisqu'ils courent les risques, c'est équiper les gros des victimes de Covid-19.
Docteur Hans-Batteï, il y a beaucoup d'informations qui circulent, selon lesquelles Covid est terminé, où le variant actuel du Covid n'est plus nocif. Vous, comme expert de la vaccination, quelle assurance pouvez-vous donner?
Bon, ce que nous savons, c'est que, en principe, la pandémie est encore là. même si aujourd'hui les cas diminuent, les mutants ou la mutation de virus que nous sommes en train d'observer aujourd'hui dépend également de la réponse, puisque on a vacciné dans le pays aujourd'hui qui ont atteint un grand nombre, plus de 70 à 80%, ils sont en train d'abandonner tout ce qui est mesures barrières, mais nous en Afrique, pour la plupart, on n'a même pas atteint des pourcentages considérables. Ce qui fait que le virus est un être vivant comme nous. Chaque fois qu'il est agressé, il trouve le mécanisme aussi pour muter. Et c'est ce que nous voyons comme variant. Et pour Omicron, c'est trop tôt de dire voilà, c'est fini. C'est-à-dire, on sait que vers mars-avril, certainement, après ces vagues ici, certainement, s'il y a une mutation, nous aurons affaire encore à une autre vague. Dans l'histoire du virus, si il arrivait que Omicron est maîtrisé, il n'y a pas de mutation, c'est une bonne nouvelle, c'est qu'au moins ça va rester comme des grippes habituelles. Donc je pense que nous devrons être vigilants, respecter les mesures barrières dans la mesure du possible et aussi se faire vacciner pour prévenir contre d'éventuelles pandémies ou épidémies.
Docteur Stéphane Ansbatei, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Docteur Stéphane Ansbatei, médecin coordonnateur du programme élargi de vaccination au Nord-Kivu, dans un entretien avec Rosalie Zawadi. Ce journal prend fin. Il a été coordonné par Noëlla Luzitu et Pierrot Elameji. Dieudonné Nyangassa, la mise en onde. Merci de l'avoir suivi.